Alors nous allons travailler dans l'ordre suivant. Nous aurons d'abord les trois exposés de M. Chapoutier, de M. Goffi et de Mme Wolf. Après une pause, en tout cas si les premiers orateurs respectent leur délai, il y aura une pause. Et ensuite, Mme Lagré et Mme Touvenin. En ce qui concerne l'exposé de Pat Wolf, il sera fait en anglais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont absolument besoin d'une traduction? Oui? Bien, donc il y aura, m'a dit Gérard Wormser, un traducteur au moins partiel. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole pour un peu moins de 30 minutes, n'est-ce pas, à Georges Chapoutier, qui travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui va nous parler de pensée humaine, évolution des espèces et éthique avec un S.
Oui, c'était pas nécessairement avec un S. D'ailleurs, il y a eu un S qui s'est glissé, mais c'est valable sous une forme comme sous une autre. Je voudrais d'abord remercier l'École normale de Lyon de m'inviter à présenter ici quelques-unes de mes thèses pour un congrès auquel j'ai assisté en partie, qui me paraît très réussi. Je vais donc vous développer quelques idées sur ce qui tourne autour de pensée humaine, évolution des espèces et éthique, et qui sont principalement tirées de mon dernier livre qui s'appelle « L'homme, ce singe en mosaïque ». Ce livre, tout de suite, je vous le dis, malgré son titre, porte beaucoup plus sur l'homme, la complexité et la mosaïque que sur le singe en tant que tel, même s'il y a des arguments très solides, dont je ne parlerai pas ici, qui montrent qu'il y a une forte proximité de l'homme avec les chimpanzés, par exemple. J'en donne un exemple dans la diapositive qui suit. Mais ce n'est pas de ça dont il sera question. Donc voilà, il y a des arguments très forts qui montrent la grande proximité de l'homme avec les chimpanzés. Mais nous ne parlerons pas de ça aujourd'hui. Merci. On peut éteindre peut-être. Il y a un problème technique, on peut baisser la lampe.
C'est par là, vous avez un écran.
C'est ça?
Oui, c'est ça. Non.
Allez-y, je vous retarde pas.
J'en prie, non.
Les volumes de la salle, c'est quoi? C'est la volume sonore?
Aucun penseur sérieux ne remet aujourd'hui en cause la théorie de l'évolution. Elle montre que l'espèce humaine, notre espèce, est, comme d'ailleurs toutes les espèces, le fruit d'une longue évolution. Cette évolution peut se décomposer en deux grandes étapes. Une évolution cosmique et minérale, tout d'abord, qui a amené à l'apparition de composés chimiques de plus en plus complexes, puis à l'apparition des premières cellules vivantes, et ensuite une évolution biologique qui a conduit jusqu'aux êtres pluricellulaires, eux aussi, souvent de plus en plus complexes que nous connaissons. En d'autres termes, si on se limite à ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'évolution des espèces qui peuplent notre planète, la Terre, cette évolution a comporté d'abord une phase largement extraterrestre qui, partant du Big Bang, a conduit à la constitution des galaxies, des étoiles et parallèlement à des entités de plus en plus complexes que sont les particules, les atomes, les molécules organiques, c'est-à-dire carbonées, et sans doute finalement, dans les océans primitifs, des interactions complexes entre ces molécules, qualifié de proto-métabolisme. À cette phase a succédé une phase purement terrestre, qui est celle de l'évolution des espèces telles que nous les connaissons. Le système nerveux humain est sans doute l'un des organes les plus complexes produits par cette évolution terrestre, dans la mesure où il s'avère capable de simuler les événements les plus compliqués, de donner à l'homme la capacité, inégalée dans cette petite portion du cosmos, de modifier considérablement le monde qui l'entoure, voire même, dans une modeste mesure, de le quitter. L'expression la plus élevée de ce système nerveux humain, fruit de l'étage supérieur du névrax appelé néocortex, est la pensée humaine. On peut se demander quel caractère cette pensée doit aux différents processus évolutifs dont elle est issue et qui viennent d'être évoqués il y a un instant. Tout système matériel obéit nécessairement aux lois du monde, physique. Je dis ça en me tournant vers Gaillon. Et les systèmes vivants, que sont les organismes, ne font évidemment pas exception à la règle. Ils obéissent aux lois physiques. L'organisme humain y est soumis comme tous les autres, et sa pensée en tire les conséquences. En se limitant à des actes moteurs techniquement possibles, en évitant les chaleurs excessives qui brûleraient les molécules carbonées dont le corps est constitué, en reconstituant régulièrement son capital énergétique par l'alimentation, etc., l'organisme humain obéit aux lois du monde physique, comme le faisaient ses grands-parents minéraux, et comme ont continué à le faire ses parents animaux. Sous peine de mort, il ne saurait désobéir à ses contraintes. La mort, enfin, vient lui rappeler son destin de système physique. En cessant de s'alimenter, c'est-à-dire de recevoir un apport externe d'énergie et de matière, l'organisme, devenu un système physique largement isolé ou cadavre, obéit à la loi générale qui veille sur les systèmes isolés, qu'on appelle la dégradation de l'énergie, encore appelée croissance de l'entropie. Mais, de ses parents animaux, l'homme a également reçu une hérédité qui semble aller à l'encontre de ses lois. Durant le temps de sa vie, il est capable, en s'alimentant de matière et d'énergie, de remonter la pente de l'entropie, comme l'ont étudié de nombreux thermodynamiciens comme Prigogine ou Tonelat. D'échapper à cette dégradation générale de l'énergie, de maintenir et d'accroître la complexité de son organisation, sans d'ailleurs que l'on sache bien de façon claire les rapports précis qui peuvent exister entre l'énergie emmagasinée et l'organisation, bien entendu. Prigogine et son groupe, par exemple, ont montré comment cette augmentation d'énergie et de matière rendait possible les propriétés exceptionnelles des êtres vivants, sans déroger pour autant aux lois de la physique. L'autonomie de la vie n'est donc pas une indépendance, et ceux qui l'ont longtemps cru, qui ont longtemps cru à cette indépendance de la vie, d'avec le monde matériel, qu'on appelait les vitalistes, ont partagé une dangereuse illusion. Mais cette illusion d'indépendance reste l'un des grands traits des organismes. Illusion, j'ai bien dit. L'homme l'a reçue en héritage de ses parents animaux. Obéissance aux lois physiques du monde. Désobéissance apparente ou illusoire aux mêmes lois. La pensée humaine, elle aussi, doit, bien sûr, gérer une telle contradiction. Et elle le fait fort bien. Elle aussi comporte une facette issue en quelque sorte, telle que j'ai définie, de l'héritage cosmique ou minéral et une facette issue de l'héritage proprement biologique. Nécessairement rationnelle dans son analyse scientifique des lois du monde, la pensée se montre débridée dans son imaginaire, notamment artistique. En ce sens, l'art humain, qualifié par Malraux d'antidestin, referait, si vous suivez ma thèse, sur le plan culturel, ce que faisait le vivant sur le plan naturel. Il viserait à échapper au destin physique du monde, à la mort thermodynamique qui guette les systèmes isolés. L'art ou l'imaginaire donne à l'homme, dans le cadre même de sa pensée, cette illusion de toute puissance, cette illusion de pouvoir échapper aux lois du monde physique. J'en donne deux exemples, pour en citer bien sûr des exemples partout, dans la peinture, la sculpture, ce que vous voudrez. Je vous en donne deux exemples dans la poésie. Quand je dis avec Éluard, la terre est bleue comme une orange, ça n'a aucun sens rationnel. Quand je dis avec Aragon, j'inventerai pour toi la rose, ça n'a aucun sens rationnel. Vu sous cet angle, la rationalité serait, dans la pensée animale puis humaine, la trace de l'héritage minéral ou prébiotique, alors que l'imaginaire et ses conséquences, chez l'homme l'activité artistique, seraient les traces de l'héritage plus proprement biologique. Ou encore, si on se limite à l'être humain, et vous suivez les thèses que je cherche à vous vendre, évidemment, la rationalité analytique et scientifique de la pensée humaine aurait été forgée par l'hérédité minérale puis prébiotique de l'homme, alors que l'imaginaire artistique serait issu d'une hérédité plus proprement biologique où l'illusion d'indépendance par rapport au monde physique serait reine. Or, cette seconde facette de la pensée humaine, cette autonomie relative de la pensée par rapport au monde, semble résulter de la construction même du vivant. Dans l'ouvrage que j'ai cité, je développe cette idée, que je ne vais pas évidemment développer pleinement ici. J'ai cherché à montrer que la construction des êtres vivants, depuis les plus simples jusqu'aux plus compliqués, semblait s'effectuer sur un modèle que j'ai appelé de la mosaïque. Une mosaïque, on le sait, c'est une métaphore, Une mosaïque, on le sait, c'est une œuvre dans laquelle une forme globale, que l'on peut voir, un visage, un animal, une forme abstraite, n'exclut pas une certaine persistance des caractéristiques des petits éléments qui la constituent. Ceux-ci conservent leur forme propre, leur couleur ou leur éclat. En d'autres termes, sur un plan philosophique qui va nous concerner ici, dans une structure en mosaïque, les propriétés du tout n'empêchent pas le maintien de certaines propriétés des parties. On peut montrer que ces constructions en mosaïque, telles que je les ai définies, se retrouvent dans des quantités d'aspects de la biologie. Dans le fonctionnement du cerveau, dans les fonctions mentales, on en verra des exemples. Ces constructions en mosaïque sont fondées sur deux principes, je n'ai pas dit de loi, deux principes que j'avais appelés juxtaposition et intégration. Je vais vous les présenter très... dans mon livre, j'en donne des quantités d'exemples sur l'anatomie des organes, des organismes, sur les gènes, de la même façon. Je ne parlerai ici, évidemment, que du cerveau et de la pensée. Alors, la première diapositive. Montre de façon tout à fait générale ce principe de juxtaposition-intégration. Ça consiste à prendre une entité A, on la juxtapose, premier principe, et puis, deuxième temps, on différencie certains éléments et on intègre. Et puis on recommence. Une fois qu'on a l'entité C, on juxtapose et on intègre, et ainsi de suite. Bon, ici encore, je ne vais pas développer ce thème qui est en dehors de nos préoccupations. En ce qui concerne le système nerveux, simplement, on se limitera à ça. Voilà, par exemple, dans la construction du cerveau, un exemple de juxtaposition bien connu, le fait que le cerveau est constitué de vésicules qui vont constituer le névras, 5 vésicules successives, et puis, juxtaposition, qui vont ensuite être intégrées, comme vous voyez en bas, pour constituer des choses plus compliquées. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de la construction de l'encéphale. Diapositive suivante, qui aboutit finalement à la construction, vous voyez là, où on a l'apparition des hémisphères, du cervelet, etc., etc. Donc, on peut définir ici encore, dans la construction même de l'encéphale, les grands principes que j'ai trouvés ailleurs de juxtaposition et d'intégration. On peut aussi les trouver, diapositive suivante, dans un autre... On peut multiplier les exemples, si vous voulez, hein. On peut aussi les trouver dans la redondance des aires du néocortex, qui est l'étage supérieur du névrax, hein, qui présente chez l'adulte des fonctions particulières. Ces aires cérébrales présentent des fonctions comme les aires de la sensibilité, de la motricité, du langage parlé, du langage écrit, d'associations variées. Mais cette structure, en quelque sorte en mosaïque, n'exclut pas le rôle de l'ensemble, le rôle de l'entité du tout. Il y a chaque fois cette dialectique, si vous voulez, entre les parties et le tout, mosaïque de parties, mais en même temps, république de parties, mais en même temps, rôle du tout. Donc je le retrouve dans le cortex également. Donc une certaine redondance de certaines aires qui peuvent dans certains cas se remplacer, je pense, merci pour les diapos pour l'instant, une redondance de certaines aires qui peuvent se remplacer dans certains cas, pas toujours, et puis intégration dans le tout qui fait que quand même il y a un fonctionnement homogène. Cette redondance se manifeste aussi par l'existence par exemple de deux hémisphères symétriques, autre exemple, même si ceux-ci sont amenés à acquérir chez divers groupes d'animaux des fonctions spécifiques, comme chez les oiseaux, le contrôle du chant, ou chez l'homme, le contrôle du langage ou la reconnaissance des formes. Ces hémisphères ont des fonctions certes spécialisées, mais présentent néanmoins une certaine redondance et dans certains cas peuvent se remplacer ou se compléter d'une certaine manière. Ceci est particulièrement net entre la gauche et la droite chez le sujet jeune, où des déficiences dans l'un des hémisphères peuvent être largement compensées par une activité équivalente dans l'autre. On sait par exemple que pour le langage humain, que cette suppléance n'est possible que quelques années. Chez l'enfant jeune, l'hémisphère, dans le standard droitier, l'hémisphère droit peut suppléer à des déficiences de l'hémisphère gauche. Mais ça, c'est possible jusqu'à 7 ans à peu près. Et après, bien entendu, ça ne l'est plus, hélas. Sur le plan philosophique qui nous intéresse ici, cette constitution en mosaïque de l'encéphale et du cerveau aboutit donc à l'existence de parties qui gardent des propriétés propres et sont susceptibles d'assurer occasionnellement certaines suppléances, mais qui concourent cependant à un travail cérébral d'ensemble. Les mêmes réflexions peuvent être conduites pour certains aspects de la pensée. Nous choisirons comme exemple une faculté très centrale puisqu'il s'agit de la mémoire, dont vous avez déjà entendu parler d'une autre manière par Dupont hier. L'impression que nous avons d'une unicité de notre mémoire est à la fois juste et fausse. En effet, structure en mosaïque, notre mémoire présente certes un caractère unitaire dans l'utilisation que nous en faisons, mais si on analyse dans le détail son fonctionnement, on peut montrer qu'il est fait d'une combinaison harmonieuse, d'une série d'aptitudes très hétéroclites, acquises par nos ancêtres animaux au fur et à mesure de l'évolution des espèces. Diapositive suivante. Ainsi, on peut définir des catégories de mémoire de plus en plus élaborées, ou de moins en moins simples. Je les fais figurer sur la diapo. L'habituation consiste dans un apprentissage très simple de non-réponse à un stimulus. Par exemple, votre réveil ne vous réveille plus. L'aspect mnésique réside dans le fait qu'un stimulus équivalent ne provoque pas la non-réponse. Un autre réveil de même puissance vous réveillera. Le sujet a donc mémorisé les caractéristiques du stimulus auquel il est spécifiquement habitué. La tendance à l'alternance, encore appelée inhibition réactive, consiste dans le fait suivant. Lorsqu'un sujet a été conduit à choisir de manière spontanée ou forcée, peu importe, l'un des termes d'une alternative, par exemple un ver de terre qui a choisi plusieurs fois la gauche dans un labyrinthe, il aura tendance à choisir la droite, c'est l'autre terme de l'alternative. Ou encore, si vous prenez l'auditeur à un meeting, et que vous les mettez devant un buffet qui contient exclusivement des parts de tarte aux pommes et des parts de tarte aux fraises, S'ils ont pris plusieurs fois une part de tarte aux pommes, ils auront plutôt tendance statistiquement à prendre une part de tarte aux fraises. Vous voyez qu'en changeant les catégories, on peut appliquer ce type de comportement à tous les animaux, depuis le ver de terre jusqu'à l'homme. Le conditionnement pavlovien, je pense que tout le monde le connaît, il consiste dans la capacité à associer à un stimulus primitivement neutre, par exemple le son d'un violon, un stimulus, par exemple la viande, qui déclenche automatiquement une réponse. Au bout d'un certain temps, le conditionnement aboutit à ce que l'animal apprend à saliver lorsqu'il entend le violon. Le conditionnement skinnerien ou instrumental consiste à apprendre un animal une réponse qui effectue une action pour obtenir une récompense ou pour éviter une punition. Je vous en donne quelques exemples dans les diapos suivantes, très brièvement. Je vais un peu de survoler, pardonnez-moi. Voilà ici la boîte dite de Skinner, où la souris doit appuyer sur une pédale lorsque le voyant est allumé pour obtenir une boulette. C'est le plus classique des tests de conditionnement skinnerien. La suivante, ça c'est un apprentissage au labyrinthe, la souris doit tourner à gauche ou à droite pour obtenir quelque chose. Ou enfin, dernier exemple, voilà un labyrinthe hanté un peu plus compliqué où la souris doit apprendre à choisir l'allée éclairée qui change de façon aléatoire entre la droite ou la gauche. On pourrait bien sûr multiplier les exemples. Quant aux deux derniers groupes d'apprentissage, l'apprentissage de détour, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ça suppose que l'animal est capable de simuler l'espace et de savoir qu'en s'éloignant de son but, il peut y revenir après. Diapositive suivante. Par exemple, ici, le raton laveur posé sur la diapo, pour accéder à sa nourriture, il doit faire le tour du poteau, revenir en arrière et passer de l'autre côté. Donc ça, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui font ça. Et puis, je passe brièvement sur l'apprentissage de règles abstraites. On pourra le développer si on a le temps, si vous voulez. Je ne voudrais pas trop développer ce thème-là, parce que ce sont des choses un petit peu pointues. Les règles abstraites, c'est quand même l'apprentissage le plus élevé. Ça suppose que l'animal économise des essais parce qu'il va raisonner non plus en apprenant systématiquement un problème, mais en faisant appel à une règle qui va lui donner une grande façon de s'orienter. Règle abstraite. Alors, diapositive suivante. Si on projette toutes ces catégories sur le monde animal, tel qu'il est résumé ici très schématiquement, pardonnez-moi, vous voyez qu'il y a un arbre généalogique très simplifié, on part des unicellulaires, puis on passe d'animaux à deux feuillets, puis on arrive à des animaux à trois feuillets qui se divisent en deux grandes branches, une à système nerveux ventral qui va comprendre les vers, puis les mollusques, puis les insectes et les crustacés, et puis une branche à système nerveux dorsal qui comprend toutes sortes de petits groupes que je n'ai pas mentionnés, et puis un grand groupe qui émerge au bout, qui est le groupe des vertébrés auxquels nous appartenons. Vous voyez aussi que j'ai séparé les mollusques dits céphalopodes, comme la pieuvre et la sèche, pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Donc si on projette, si vous voulez, les différentes catégories sur ce monde animal, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de l'évolution, apparaissent les différents types de mémoire. En gros, les animaux en dessous des vers, en dessous de la bifurcation, sont capables d'habituation et d'alternance, mais pas de conditionnement. Le conditionnement, qui est d'ailleurs lié à l'apparition de ce qu'on appelle les synapses vraies, apparaît à partir de la bifurcation, chez les aussi bien chez les animaux au système nerveux ventral qu'au système dorsal. Et puis, l'apprentissage de détour, l'apprentissage spatial, est très rare. Il n'est en fait connu que dans deux grands groupes. Ce sont les vertébrés, groupe auquel nous appartenons, et les mollusques céphalopodes, comme la pieuvre ou la sèche. Enfin, l'apprentissage de règles abstraites est encore plus limité. Seuls semblent capables de ce type d'apprentissage, ce type de mémoire, les vertébrés à sang chaud, comme les mammifères et les oiseaux, et apparemment aussi certains céphalopodes comme la pieuvre, qu'il faudrait à ce moment-là upgrader dans l'échelle intellectuelle. Pour fixer un peu les idées sur autre chose que sur l'homme, je vous ai présenté trois diapos qui montrent que ces apprentissages, en quelque sorte, coexistent. Ces différentes modalités sont très différentes, elles font appel à des choses très différentes, mais elles coexistent. Par exemple, chez la pieuvre, diapositive suivante, la pieuvre a des yeux qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Voici ce que, par conditionnement visuel, elle peut apprendre. Elle peut apprendre à reconnaître une barre verticale, une barre horizontale. Donc à répondre à une barre verticale. Donc elle peut distinguer deux à deux, c'est les signaux que vous voyez là, par conditionnement visuel, c'est-à-dire un conditionnement. La pieuvre a aussi des tentacules qui lui permettent une certaine préhension. Et diapositive suivante, toujours par conditionnement, voici ce que par palpation, elle peut distinguer des cylindres de rugosité variable. Mais, diapositive suivante, la pieuvre est capable d'apprendre à aller chercher le crabe qui se trouve derrière la paroi vitrée que vous voyez à gauche et de faire le tour pour aller le chercher. Donc ici, c'est un apprentissage de détour. Donc on peut arrêter les diapos, merci beaucoup. Ce que je voulais, j'ai développé ce point, j'aurais pu en développer d'autres, mais je développe celui-là pour deux raisons. D'abord parce que la mémoire est une faculté très centrale, puis le deuxième aspect, c'est que c'est un domaine sur lequel je travaille et que je connais très bien. Mais ça vous montre que ce qu'on croit être une faculté unitaire n'est pas une faculté unitaire, c'est un patchwork. Ou encore une mosaïque, selon le terme que j'ai utilisé, de capacités qui ont été acquises au fur et à mesure de l'évolution par nos ancêtres et qui constituent en quelque sorte l'ensemble de notre mémoire. La mémoire est en quelque sorte à la fois unitaire et parcellaire, ce qu'on peut interpréter comme un caractère de mosaïcité au sens que j'ai donné à ce terme. Même la conscience, alors j'ai parlé de la mémoire, un mot sur la conscience. Même la conscience peut être perçue comme une structure en mosaïque. Voici ce qu'en dit un des meilleurs spécialistes, Jean Delacour. L'unité de la conscience, nous dit-il, est une donnée phénoménologique fondamentale, puisque même les variations, les inconstances de notre moi ne se perçoivent que par rapport à une identité au moins formelle. Fin de citation. Mais, face à cette unité phénoménologique, ajoute Delacour, je le cite, « les mesures fines de psychologie expérimentale, le caractère massivement parallèle de l'organisation cérébrale, certaines pathologies mettent fortement en question cette unité. » Pathologie, il pense aux gens qui ont le cerveau dédoublé et qui ont en fait deux consciences en eux. Bon, je renvoie bien sûr au livre de Delacour pour l'analyse, si vous voulez, je n'ai pas le temps de le faire comme je l'ai fait pour la mémoire, de l'analyse de ces problèmes de conscience, mais il est clair que la conscience aussi, elle est à la fois un et partie. Et ensemble de parties. Delacour dit que la conscience, elle est unité et pluralité, ce qui revient au même. Pour résumer, finalement, ces réflexions sur les rapports entre pensée et mosaïque, je voudrais souligner qu'une structure en mosaïque implique à la fois les propriétés du tout et celles des parties qu'il compose. Une présence excessive du tout, réduisant au silence les parties dans un mouvement totalitaire, aussi bien qu'une indépendance complète des parties réduisant au silence le tout, ne serait plus conforme au statut de mosaïque tel que je l'ai défini. J'en ai donné de nombreux exemples anatomiques et physiologiques ou génétiques dans mon livre et j'y renvoie. Je voudrais, pour terminer, citer ici, pour vous solliciter un petit peu, pour vous stimuler un peu, deux conséquences possibles de ces thèses sur l'éthique ou sur les éthiques, si vous mettez un S. La première a trait à la liberté de l'homme, la seconde à ses aptitudes morales. Par rapport aux sociétés humaines, considérées comme des ensembles d'ordre supérieur, avec leur mode de fonctionnement et leurs règles propres, l'individu humain garde une certaine autonomie. Ici, la structure en mosaïque permet à la partie que constitue l'être humain une autonomie par rapport au tout social. Une autonomie bien plus grande, par exemple, que celle d'une abeille ou d'une fourmi, des animaux qui restent bien davantage assujettis au fonctionnement de leur colonie. Mosaïque aussi, mais beaucoup, la colonie d'abeilles, c'est beaucoup, une mosaïque beaucoup plus totalitaire. Cette autonomie humaine a un nom, c'est la liberté. C'est parce que la structure en mosaïque permet une certaine souplesse que l'homme jouit de cet avantage qu'il sait apprécier. Et il en jouit d'autant mieux, évidemment, que la société lui permet. Il y a des sociétés humaines, vous le savez aussi bien que moi, plus ou moins totalitaires. Là, on passe à un problème politique que je ne développerai pas ici. La structure en mosaïque peut aussi être décelée dans l'une des activités humaines les plus importantes. Celle, en tout cas, dont notre espèce est le plus fier, l'activité morale. Alors, bien sûr, réserve évidente. L'activité morale de l'homme, on en est très fier. L'homme n'est pas absolu dans sa morale non plus. La suite de l'histoire humaine montre qu'il y a beaucoup d'atrocités aussi, mais enfin, c'est une parenthèse. Ici, on pourrait s'attendre à ce qu'une morale unitaire, le tout, vienne englober en leur laissant une autonomie relative les différentes parties. Morale appliquée à l'intérieur de l'espèce humaine, à l'égard des animaux, à l'égard de l'environnement. Or, il n'en est rien. La plupart des morales proposées par les philosophes sont exclusivement anthropocentrées, c'est-à-dire qu'elles visent à prescrire des normes de comportement aux hommes seuls, entre eux. Seuls quelques auteurs, surtout modernes d'ailleurs, posent des questions de morale à l'égard du monde ou des êtres qu'ils composent comme les animaux. Une morale plus générale pourrait être développée autour du thème du respect de l'autre, de l'altérité. Morale qui engloberait alors, en les laissant à leur place respective, les grands systèmes moraux anthropocentrés et les morales de l'animalité ou de l'environnement. Le tout intégrerait de manière plus équilibrée les parties. La structure en mosaïque trouverait une forme plus harmonieuse. Plus précisément, à côté des divers systèmes moraux traditionnels, anthropocentrés, qu'ils soient fondés sur la vertu, déontologique ou utilitariste, ont été récemment proposés des systèmes qui visent à donner une considération morale plus grande à l'environnement biologique en général ou aux animaux en particulier. Ces systèmes sont très divers. Il n'est pas question de les analyser tous ici. Je renvoie aux ouvrages de Goffi qui a abondamment traité ces sujets. Selon le thème principal sur lequel ils s'appuient, on peut parler de systèmes éco-centrés sur l'environnement, biocentrés, zoocentrés, pathocentrés sur la douleur, etc. Certains systèmes se réclament d'une tradition déontologique, c'est-à-dire qu'ils partent de grands principes moraux définis à l'avance, d'autres d'une tradition utilitariste, c'est-à-dire qu'ils visent à diminuer de toutes les manières possibles la quantité de souffrance présente dans le monde. C'est en général le cas des systèmes pathocentrés. Enfin, ces systèmes sont plus ou moins radicaux ou relativistes selon la place qu'ils laissent aux autres entités que celles qu'ils défendent. Bien entendu, il s'agit de trouver un équilibre harmonieux. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, on va respecter le ver de terre comme l'homme. Ne me faites pas dire que je ne dis pas. Certes, les systèmes relativistes semblent les plus proches du modèle de la mosaïque tel que je l'ai exposé. Tout en centrant la morale sur un domaine particulier, ils laissent leur place à d'autres éléments, à d'autres parties du tout. En ce sens, ces systèmes relativistes en écologie, comme l'holisme faible de Rolston ou la conception française des droits de l'animal, paraissent de bons exemples, de bons points de départ pour un cheminement vers une morale plus harmonieuse comme celle que je viens d'évoquer. Je voudrais donc, pour conclure, former le vœu que l'homme, produit par l'évolution comme un être en mosaïque, ce que j'essaie de vous faire passer, sache continuer dans ce sens à intégrer davantage la mosaïque de sa morale. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, nous avons une dizaine de minutes pour des questions. Le micro est là. Qui commence ? Oui. Gérard.
Je voudrais te poser une question sur ton objet central de compétence, qui est une compétence de physiologiste et de philosophe. Et ayant beaucoup travaillé sur la mémoire, précisément. En tant que biologiste, qu'est-ce que ça te suggère comme réflexion que la mémoire et les émotions soient autant liées dans le genre de système organique que nous sommes ?
Le lien de la mémoire avec l'émotion ?
Oui.
Alors, ça suggère beaucoup de choses. Je n'en ai pas parlé de ça, hein, parce que je n'ai pas trop évoqué ce point-là. Gaillon a raison de faire remarquer que la mémoire, enfin les mémoires développées, les mémoires des animaux supérieurs, parce que les premières mémoires d'habituation, elles ne sont pas tellement liées à l'émotion. Mais les mémoires évoluées à partir des conditionnements et au-delà, chez les êtres vivants, sont construites sur une base émotionnelle. En d'autres termes, elles sont très fortement liées aux émotions. Alors pourquoi ? J'en sais rien, on est construit comme ça. Là, il faut plutôt renvoyer à Gaillon qui montre que l'évolution a eu un certain cours qu'il aurait pu être autre. C'est un peu ce que tu nous disais ce matin, qu'a priori, peut-être que dans d'autres systèmes stellaires, les mémoires auraient été fondées différemment. Chez nous, elles ont été fondées comme ça. Alors, pour des questions, probablement aussi d'adaptation pratique, parce que l'émotion, c'est la suite de la douleur et de la souffrance. Au départ, un animal qui souffre, il a tendance à apprendre pour éviter les sources de la souffrance. Puis quand ça devient plus évolué, la souffrance devient à ce moment-là émotion, et l'apprentissage se fait de cette manière-là. Donc on peut dire que c'est lié de cette façon-là, mais on peut très bien imaginer qu'il y a des systèmes informatiques créés par l'homme qui apprennent tout aussi bien, entre guillemets, sans appel à une certaine émotion. Donc je crois que je n'ai pas une réponse absolue sur pourquoi c'est comme ça. Je le constate. En tout cas, c'est un point essentiel, et beaucoup de philosophes qui ont parlé de la mémoire se sont un petit peu, entre guillemets, plantés, y compris Bergson, parce que c'est souvent des mémoires aseptisées, sans émotion. Et dire que la mémoire n'est pas, des animaux supérieurs et de l'homme n'est pas liée à l'émotion, c'est ne pas la reconnaître comme pour ce qu'elle est. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je n'ai pas de réponse sur le fait pourquoi c'est comme ça. Hein. L'évolution a fait que c'est comme ça.
C'est une autre question ? Oui, madame.
Dans la liste que vous avez présentée, habituation, apprentissage d'alternance, etc., on arrive à économie d'essai en réversion, et là, je n'ai pas bien compris.
Pardonnez-moi, c'est ce qu'il y avait sur la diapo ?
Oui.
Ah oui, je n'ai pas regardé, mais j'ai eu tort. J'ai parlé de règles abstraites. Je peux vous en dire un petit mot. Pour estimer les règles abstraites, il y a une méthode technique qui est très commode, c'est l'économie d'essai en réversion. Je vous la donne très rapidement, c'est très facile. Vous prenez un ver de terre dans un labyrinthe en forme de T. Il doit apprendre à tourner à gauche où il a une chambre humide sympathique. Le ver de terre, il peut apprendre, mais il n'est pas très intelligent, le ver de terre. Il met 300 essais pour aller à gauche. Tâche directe. Tâche de réversion. La chambre humide qui était à gauche, vous la mettez à droite. Le ver de terre, il est perdu. Il a eu beaucoup de mal, 300 essais pour aller à gauche, et maintenant, vous lui donnez à gauche, il va mettre 700 essais pour aller à droite. Donc, il va faire plus d'essais pour la tâche de réversion que pour la tâche directe, parce qu'il va réapprendre, en quelque sorte. Prenons maintenant un grenier avec des tables, des chaises, des armoires au centre du grenier. Il y a une table, sur la table, il y a deux tasses renversées, sur la tasse de gauche, il y a un bonbon. Et vous dites à un jeune enfant, tu as des essais successifs pour trouver un bonbon dans le grenier. Mettons qu'il le trouve en 5 essais. Tâche directe. Vous mettez le bonbon sous la tasse de droite. L'enfant, en un ou deux essais, il va le trouver là. Et puis il va se dire, on ne me l'a fait pas. Ce qui était sous la tasse de gauche, c'est sous la tasse de droite. Et lui, tout de suite, il va, par une règle abstraite, il va transférer l'apprentissage de la tâche directe à la tâche de réversion, et il va faire moins d'essais pour la tâche de réversion que pour la tâche directe. Eh bien ça vous paraît évident, parce qu'on raisonne comme des hommes, il y a très peu d'animaux qui font ça. Capables de ça, les mammifères, les oiseaux et quelques céphalopodes. Point.
Oui, madame, là-haut.
Ah si, bien sûr. Pas uniquement des synapses. Les premiers apprentissages, habituation, se font même sans synapses. Hein. Le conditionnement, ça dépend des synapses. Donc, on peut dire en gros que les conditionnements sont liés aux synapses. Hein. Mais au-delà, quand on va vers à ce moment-là vers des choses plus compliquées, le détour, l'apprentissage spatial, les règles abstraites, bien sûr, la base, c'est des synapses, mais il y a des organes dont on ne connaît pas bien le mécanisme qui agissent ensuite, le système limbique en particulier, qui sont des systèmes beaucoup plus compliqués, qui sont fondés sur des systèmes de synapses, mais qui doivent opérer avec des mécanismes qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement.